Le journal Alexandra Duboucheron, bonjour.
Bonjour à tous. Le masque obligatoire dans les commerces, dans les rues et bientôt en entreprise. Le gouvernement va faire des propositions cette semaine aux partenaires sociaux. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, donne quelques pistes ce matin. Dans ce journal aussi, avec le coronavirus, l'inquiétude du monde du spectacle, toujours à l'arrêt, et des kiosquiers qui se disent en voie de disparition. À l'étranger, les pros et les anti-Loukachenko dans les rues aujourd'hui de Minsk, en Biélorussie. Des prisonniers talibans libérés par Kaboul alors qu'ils ont tué 5 soldats français en 2012 et une employée française de l'ONU en 2003. Nous reviendrons bien sûr dans ce journal sur ce rendez-vous avec l'histoire en Ligue des Champions. Deux clubs de Ligue 1 en demi-finale, c'est du jamais vu. Et puis des airs d'opéra et des duos d'amour célèbres, ça se passe ce soir à 400 mètres au-dessus de la Méditerranée.
France Inter.
Dans deux semaines, c'est la rentrée, avec elle le risque d'une deuxième vague de coronavirus. Hier, déjà, alors qu'on est en plein été, la France a franchi le seuil des 3000 contaminations par jour. Alors imaginez septembre avec les open space et le retour des collègues. Après sa généralisation dans les rues et dans les commerces, la question de l'obligation des masques au bureau se précise. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Du service économie de France Inter. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, donne quelques pistes dans un entretien ce matin au Journal du Dimanche.
Oui, entretien où la ministre dit vouloir instaurer de nouvelles règles sanitaires au travail dans les jours qui viennent, hein, d'ici la fin du mois, afin d'éviter à tout prix un nouveau reconfinement. Alors imposer le port du masque en salle de réunion, dans les couloirs, les espaces de circulation font partie des propositions que le gouvernement fera mardi aux partenaires sociaux. Côté patronal, François Asselin, président de la CPME, dit attention, il demande à Elisabeth Borne de laisser les entreprises faire. Elles n'ont pas attendu la ministre pour mettre en place elle-même des mesures sanitaires.
Elle est dans son rôle. Maintenant, envisager qu'on rende obligatoire le port du masque en entreprise, faire d'une mesure spécifique une mesure d'ordre général, nous paraît pas tellement de bon sens. Si vous vous retrouvez dans une salle de réunion, que vous croisez du monde dans un couloir, eh bien, portez le masque. Oui, c'est du bon sens. Est-ce que pour autant on doit légiférer pour ça? Franchement, vous savez, à ce moment-là, il aurait fallu le faire dans toutes les rues de France, dans toutes les réunions de famille, dans tous les mariages.
Elisabeth Borne qui reconnaît que dans la plupart des entreprises, les choses se passent bien et pas question pour elle d'imposer, par exemple, le port du masque dans les bureaux individuels ou encore d'augmenter la distance d'un mètre entre deux collègues dans les open space, ça non. Mais en revanche, pour la ministre, quand on dit que les contaminations représentent 20 à 25% des foyers épidémiques, cela doit nous alerter. Elisabeth Borne qui reconnaît et qui recommande également la poursuite du télétravail chaque fois que c'est possible dans les zones de circulation active du virus.
Maxime Debs, merci. Et donc rendez-vous mardi sur ce sujet entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. L'incertitude toujours pour le monde du spectacle, des festivals et des salons. Le secteur a subi de plein fouet la crise sanitaire et économique. Et le coup de grâce, ça a été la jauge de 5000 personnes prolongée jusqu'au 30 octobre. Depuis, silence de l'exécutif. Invité du 8h20 d'Inter ce matin, Malika Seguino, la directrice générale de Prodis, c'est le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété en France. Un calendrier et une méthode, c'est nécessaire aujourd'hui selon elle, voire vital.
Ça fait 6 mois qu'on est intégralement arrêté. Et il n'y a pas de perspective de reprise. Comment voulez-vous que des entreprises puissent s'organiser d'ici la fin de l'année? Un jour on vous dit c'est le 1er septembre, la semaine d'après c'est le 31 octobre. Nous lisons le décret publié au Journal officiel, il n'y a même plus de date de fin pour les rassemblements de plus de 5000, ce qui sous-entend quoi? Que ça peut aller jusqu'à la fin de l'année? Mais dites-le nous. Si l'activité ne peut pas reprendre, mettons-nous autour d'une table et réfléchissons vite à des mesures massives et importantes parce que la crise, elle dure et elle va durer. On nous parle d'activité partielle, mais au-delà du 30 septembre, que va-t-il se passer? L'activité partielle est censée s'arrêter. L'exonération de cotisations sociales patronales, c'était seulement pour 3 mois. Or, nous, tout l'été, nous n'avons pas fonctionné. Le prêt garanti d'État, dans 6 mois, il faudrait que les entreprises commencent à rembourser alors qu'elles n'ont pas repris leur activité. Ce sont plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. On attend des réponses.
Malika Seguino du syndicat Prodis avec Laetitia Gaillet ce matin sur France Inter. Entretien complet à retrouver sur franceinter.fr. Et la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé il y a 3 jours sur Twitter qu'elle recevrait la semaine prochaine les représentants des activités culturelles les plus touchées par la crise sanitaire. La culture et le monde de la nuit qui broie du noir aussi, mais certains tirent leur épingle du jeu comme ce groupe de passionnés de musique et de mer qui donne des concerts tout l'été le long des côtes normandes. Ça s'appelle les Plages Électro. Hier, c'était à Merville-Franceville près de Caen. Et ici, les Aiguillennes, au grand air, on respecte les gestes barrières tout en se faisant plaisir. Chacun à sa table, Delphine et Aurélien ont fait le déplacement exprès pour le concert.
Je l'ai vu dans le Coolgat magazine. On prend ce qu'il y a. On est en attente des retours des soirées. Hein.
Partager un petit moment convivial entre guillemets avec de la musique. Ça faisait longtemps. C'est pour ça que je viens pas d'à côté personnellement et d'avoir entendu parler de cet événement. Bah, j'ai fait le déplacement, puis ça a été l'occasion de revoir les amis aussi.
Un moment de détente nécessaire, estime Bertrand Sicchetti, le patron de l'établissement.
Ça permet d'avoir de l'animation et c'est vrai que les gens, hein, qui sont en vacances ou que ce soit des locaux, ont besoin en fait, ont besoin de la musique, ont besoin de bouger, ont besoin qu'il se passe des choses. Et le fait que justement beaucoup de festivals soient arrêtés ou reportés ou autres, ça permet d'avoir une animation locale qui est plutôt sympa. Quoi.
Animation autorisée par la loi, bien sûr, et les organisateurs essayent de faire respecter au maximum les gestes barrières, contrairement à d'autres, selon Julien Gaumont, le cofondateur des Plages Électro.
Là, vous pouvez voir qu'il n'y a personne debout, tout le monde est assis. Quand les gens vont au bar, ils portent un masque. C'est des choses qu'on encourage. Après, bon, il y a les deux poids deux mesures, comme on peut voir avec le Puy du Fou ou certains événements à Paris où ils sont 2000 et il n'y a aucun souci. Nous, ça nous fait doucement rire. Après, voilà, s'ils veulent faire leur truc, ils font leur truc. Mais moi, je ne trouve pas ça responsable.
Prochaine Plage Électro, mardi soir à Juganville, dans la Manche.
Un reportage France Bleu Basse-Normandie signé Lisa Guyenne. Le coup de pouce du gouvernement pour les marchands de journaux indépendants, frappés eux aussi durement par la crise du coronavirus et les livraisons aléatoires, mais aussi la cessation de paiement du numéro 1 de la distribution, Prestalis. Ils toucheront une aide d'au moins 1 500 €. Cela pourra aller jusqu'à 3 000 € pour ceux qui sont à Lyon et à Marseille, où la presse nationale n'est toujours pas ou quasiment pas distribuée. C'est bien, mais vraiment pas suffisant pour Sophie Kawadji, présidente du SNPL, le syndicat national de la librairie et de la presse.
C'est déjà ça, c'est une aide qu'on salue. L'État a bien pris conscience qu'on était là pendant le confinement, on était là pendant les grèves et tout ça s'est déchaîné cette année. Le métier, il est en voie de disparition. Hein. La presse, personne maintenant, c'est rare les gens qui lisent. Hein. L'argent, de toute façon, elle va partir. Si vous avez un employé déjà, vous lui payez, il ne vous reste plus rien après. Hein. Il faut prévoir aussi les charges qui vont tomber en mois de septembre. Hein. On doit payer les charges sociaux, l'URSSAF, le RSI et tout ça. Donc, ils vont essayer de faire avec. Hein. C'est jamais trop l'argent, vous savez. C'est jamais de trop.
Sophie Kawadji du syndicat national de la librairie et de la presse avec Léo Téchier pour France Inter. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Saint-Dizier en Haute-Marne ce matin pour féliciter les forces de l'ordre. Ces derniers jours, la police a permis d'éviter une nouvelle rixe impliquant des Tchétchènes dans un quartier sensible de la ville. Hier, 16 personnes étaient toujours en garde à vue. Des violences avaient éclaté en juin dernier à Dijon entre des Tchétchènes et la communauté maghrébine.
France Inter, le journal de 13h. Alexandra Dubouchereau.
Le président Alexandre Loukachenko bombe le torse en Biélorussie. Hier, il a rejeté toute médiation étrangère dans la crise que traverse le pays depuis sa réélection dimanche dernier. Mais il s'est assuré le soutien de l'allié russe. Et aujourd'hui, Éric Bégala, on va assister à une lutte d'influence dans les rues de Minsk. Le pouvoir a battu le rappel des troupes quelques heures avant un nouveau défilé d'opposants. Grande manifestation pro-régime ce matin dans la capitale.
Oui, Alexandra, le premier rassemblement de la journée, c'était donc celui du soutien à Loukachenko. Durant la plus grande partie de la matinée d'ailleurs, on a pu voir sur les réseaux sociaux et les comptes de messagerie cryptés, genre Telegram ou Signal, des images de convois, de dizaines de bus se dirigeant vers la capitale, convoyant des centaines de personnes pour cette manifestation. Des manifestants recrutés, semble-t-il, chez les fonctionnaires ou dans les entreprises, les usines ou les grandes fermes d'État, et qui participent de façon plus ou moins convaincue au rassemblement de soutien à Loukachenko. Certains groupes très uniformes, uniquement constitués d'hommes jeunes, athlétiques, tous habillés de la même manière, jeans, baskets, t-shirts, casquettes et masques, font immanquablement penser à des soldats ou des policiers en civil. Quant aux drapeaux qu'ils brandissent, ce sont ceux de l'officielle République biélorusse, rouge et vert, personne avec l'étendard rouge et blanc, le drapeau de la Biélorussie historique, brandi par les opposants à Loukachenko depuis une semaine. Le rassemblement a débuté il y a 2 heures, mais dans les prochaines dizaines de minutes, une autre manifestation a également été convoquée, celle de l'opposition à Loukachenko. Là, les drapeaux rouge et blanc seront, à n'en pas douter, omniprésents. Les deux rassemblements statiques pourraient parfaitement s'ignorer mutuellement, mais s'ils devaient se rencontrer, le risque n'est pas mince d'affrontement dans le centre de Minsk cet après-midi.
Et en Afghanistan, merci Éric Bégala. Ouverture aujourd'hui des pourparlers de paix entre les talibans et le régime de Kaboul. Ça se passe à Doha, au Qatar. L'une des conditions à ce dialogue pour les insurgés, c'était la libération de 400 d'entre eux. Le gouvernement d'Ashraf Ghani a cédé sous la pression américaine. Les premiers prisonniers ont donc commencé à sortir de prison vendredi. Une décision qui
qui ne passe pas à Paris. Communiqué du Quai d'Orsay hier soir, nous demandons instamment aux autorités afghanes de ne pas procéder à la libération de ces terroristes. Effectivement, Sonia Ghezali, parmi ces prisonniers, certains sont impliqués dans des attaques meurtrières contre des Français.
C'est à la libération de 3 détenus que la France s'oppose fermement. 2 d'entre eux sont responsables de la mort de l'humanitaire Bettina Gualard. La jeune femme travaillait pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lorsqu'elle a été assassinée en novembre 2003. Le troisième captif est l'auteur d'une attaque qui a coûté la vie à 5 soldats français en blessant une dizaine d'autres en 2012. La requête des autorités françaises intervient dans un contexte très sensible. Les talibans sont inflexibles. Ils exigent la libération de 400 prisonniers au total avant d'entamer toute discussion directe avec la délégation de négociateurs afghans. Quant aux Américains qui dirigent depuis le début les négociations avec les talibans, ils ne cessent d'exercer une pression constante sur Kaboul pour accélérer le processus de paix et retirer la totalité de leurs troupes du pays. Victoria Fontan, professeure des universités en études sur la paix et la résolution de conflits, rappelle l'impunité est le prix de la paix durable dans tous les traités et cela fait partie de tous les processus de paix dans le monde. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
France Inter, 13h11, les supporters de Lyon avaient les yeux qui piquent ce matin, nuit de folie après la victoire de l'OL sur Manchester City, 3-1 pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Fabuleux, a titré le journal L'Équipe ce matin. On peut ajouter historique, Alexandre Vaux nous a rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Du service des sports de France Inter. Historique, la performance des Gones face à l'un des favoris de la compétition. Historique aussi, car pour la première fois, 2 clubs français vont se retrouver dans le dernier carré, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.
Oui, ces 2 clubs ont déjà atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, mais séparément, le PSG en 1995, les Lyonnais en 2010. Là, effectivement, c'est une grande première. Alors que la Ligue 1 s'est arrêtée, souvenez-vous, dès le mois de mars à cause du Covid, le directeur de la Ligue, Didier Quillot, en profite pour répondre aux critiques ce midi.
Les Français, on a été beaucoup décriés, beaucoup critiqués pour l'arrêt du championnat. Néanmoins, ça a permis aux équipes d'avoir un état de fraîcheur physique et mentale, je pense. Et aujourd'hui, on regarde le dernier carré, mais 2 clubs allemands, 2 clubs français. Donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas entraîneur. Je regarde simplement les faits et les chiffres de manière objective et factuelle.
Et de quoi redorer le blason d'un championnat français souvent pointé du doigt comparé au cadre européen. La Farmers League, la Ligue des agriculteurs, comme l'a tweeté Kylian Mbappé hier soir, vous salue bien, l'attaquant du PSG, déjà qualifié, qui a donc félicité les Lyonnais pour leur qualification.
Et ce sera donc des demi-finales franco-allemandes. Rendez-vous mardi pour le duel PSG Leipzig. Et le lendemain pour celle de l'OL face à un très gros morceau, le Bayern Munich. Coup de théâtre sur le critérium du Dauphiné en cyclisme. Aujourd'hui victime d'une chute. Hier, le maillot jaune Primož Roglič renonce. Il n'a pas pris le départ tout à l'heure de la 5e et dernière étape. Le Slovène a choisi la prudence à 2 semaines du Tour de France. Il laisse donc la voie libre au 2e, au général, le français Thibaut Pinot, qui compte bien malgré tout défendre sa place.
Je préfère prendre le maillot autrement. Mais bon, ça c'est la course, c'est le vélo. Ça m'arrive aussi plusieurs fois, donc je connais un peu la malchance. Mais maintenant, il y a une première place au classement général à défendre et on va essayer de remporter la course maintenant. C'est une des plus belles courses. Surtout que là, on a eu droit à une course de 5 jours qui était peut-être la plus dure. On parle avec beaucoup de coureurs, rarement on a vu une course aussi dure. Donc voilà, ça serait une fierté bien sûr de remporter la course. On est 6-7 coureurs dans le même temps, presque à 10-15 secondes près, donc rien n'est fait. Quoi. Il peut y avoir beaucoup de surprises ce soir. Ouais.
Thibaut Pinot avec Fanny Lechevestrier, arrivé de cette 5e étape prévue un peu avant 17h à Megève. Allez, on vous emmène entre New York et la Côte d'Azur à présent. New York, car le Metropolitan Opera organise une série unique de concerts en ce moment, des concerts en direct sur Internet, pandémie oblige, et depuis des lieux insolites de la planète. Et puis la Côte d'Azur, parce que justement, l'un de ces rendez-vous est tourné depuis le château d'Aize, près de Nice. C'est ce soir à partir de 19h30. Récital du ténor français Roberto Alagna et de sa compagne, la soprano polonaise Alexandra Courjac. Soirée qui s'annonce somptueuse, Jacqueline Petroz.
C'est un des événements exceptionnels de cet été. Depuis le château surplombant la Méditerranée, résonneront entre autres Puccini, Verdi, Gounod ou Donizetti. Roberto Alagna, Alexandra Courjac et le quintet Morphing de Vienne vont toucher des milliers de spectateurs sur ordinateur, smartphone ou télévision. Mais absence de public ne dit pas absence de pression. Roberto Alagna, Alexandra Courjac.
qu'il y a quand même une communion grâce à la technologie moderne. Et ça, je vous assure que ça donne quand même une sorte de stress, d'excitation.
Peut-être encore plus...
Oui, encore plus fort.
Plus parce fort que le concert avec le public. Ici, c'est tout un petit peu en vide. Alors, c'est pas facile, pas du tout.
Et aussi, avec le direct, tout peut arriver. Il va falloir lutter avec les éléments aussi, avec le vent, la chaleur. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ça sera très beau parce qu'on a prévu de le faire au coucher du soleil.
Oui, avec le mise en scène, faire par la nature.
La technologie aidant, ce concert est aussi un message.
C'est une espérance en se disant que la musique, rien ne peut l'arrêter, même pas un virus. La mission de l'artiste, c'est justement de faire oublier pendant la durée d'un spectacle les tracas du quotidien.
Cette soirée s'annonce comme un souffle suspendu entre ciel et mer.
Et pour suivre ce concert, c'est ce soir dès 19h30 sur le site vidéo live du Metropolitan Opera pour 17€ et puis en streaming jusqu'au 27 août en espérant que le temps soit au rendez-vous ce soir. Et c'est pas gagné, prévision signée Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Cet après-midi, nous allons retrouver notre bande pluvieuse et orageuse des Hauts-de-France à la région Grand Est, mais aussi de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Rhône-Alpes, débordant jusque vers le nord du Gard. Attention, l'activité orageuse va se renforcer, en particulier vers le nord-Pas-de-Calais et du côté de Rhône-Alpes, où l'on attend d'importants cumuls de pluie, de la grêle et de fortes bourrasques de vent. Dans les autres régions, retour d'un ciel de traîne alternant les éclaircies et les cumulus. Prévoyez une traîne plus active entre les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie, avec un régime d'averses orageuses. L'ensoleillement restera généreux entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures maximales seront généralement comprises entre 20 et 26 degrés. Seules les régions du nord-est, du centre-est et du sud verront le mercure jouer avec la barre des 30 degrés. Demain, le temps sera plutôt bien ensoleillé du sud-ouest au massif central et jusque vers le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, le ciel alternera de courtes éclaircies et des passages nuageux porteurs d'averses. Ces averses seront localement orageuses entre la Normandie et les Charentes.